Vendeur. J'y reviendrai à la fin de cette émission. C'est pas parce qu'une histoire se termine qu'elle n'a pas de sens. C'est pas parce qu'un livre a une dernière page qu'il faut pas lire un livre. C'est pas parce qu'à la fin d'un film il y a marqué fin ou il y a marqué the end qu'il faut pas voir un film. C'est pas parce qu'un choral de Bach ou un prélude de Chopin a toujours une dernière note qu'il faut pas écouter un choral de Bach ou un prélude de Chopin. Voilà le message extraordinairement profond qui est délivré. La mort n'invalide pas le sens de la vie. C'est ça que ça veut dire. Et c'est, je crois, extraordinairement profond. J'y reviendrai encore une fois tout à l'heure. Mais justement, je voudrais partir de cette épopée, magnifique, pour évoquer les deux attitudes de pensée qui ont, dans l'histoire, pas simplement de l'Occident, d'ailleurs là nous n'étions pas en Occident, mais dans l'histoire de la pensée mondiale, les deux attitudes de pensée qui se sont construites progressivement à partir de cette contradiction entre l'amour et la mort, attitude philosophique d'un côté, attitude religieuse de l'autre. Alors, imaginons par un artifice que Gilgamesh n'ait pas perdu l'herbe de jouvence, l'herbe de longévité, qu'il ne se soit pas fait dérober ce présent que lui avait fait la femme d'Utanapishti par le serpent, et que par conséquent il ait pu vivre plus longtemps. Et imaginons qu'il ait rencontré les philosophes grecs, imaginons qu'il ait rencontré les stoïciens, les épicuriens, Platon, Aristote, et puis qu'il ait continué dans l'histoire de la pensée jusqu'au christianisme, et puis qu'il ait rencontré Bouddha, pourquoi pas. Et imaginons ce que les philosophes et ce que les croyant aurait pu lui dire face à sa quête d'immortalité, face à sa quête de sagesse ou de sérénité par rapport à ce déchirement qu'il a vécu entre l'amour et la mort. Alors, dans mes livres, j'ai raconté les grandes réponses à la question de la mort. La réponse stoïcienne, la réponse magnifique des bouddhistes, la réponse des épicuriens. La mort n'est rien pour nous, disait Épicure. J'ai raconté aussi la réponse de Schopenhauer. Les grandes réponses religieuses. Mais peut-être essayons de centrer sur l'essentiel. Je vous raconterai aujourd'hui simplement deux grandes réponses. Une grande réponse philosophique et une grande réponse religieuse. Et cette grande réponse philosophique, c'est la réponse des stoïciens. Et je pense qu'elle va servir de matrice, en vérité, on la retrouvera jusqu'à Schopenhauer. Elle est très proche aussi de ce qu'est déjà, sur d'autres continents, la réponse des bouddhistes. Et je pense qu'elle est vraiment très emblématique des grandes réponses philosophiques à la question de la mort. Que disent les stoïciens ? Les stoïciens, ils disent, comme diront les épicuriens, comme dira Schopenhauer, que le sage, c'est celui qui n'a plus peur de la mort. Le sage, c'est celui qui a vaincu les peurs. On avait déjà vu ça avec Ulysse, mais là, on va trouver une argumentation très développée dans la philosophie stoïcienne, chez Épictète, chez Marc Aurèle, chez Sénèque. On va trouver une réponse très développée à cette question de la contradiction entre l'amour et la mort. Et cette réponse très développée, elle va passer par quatre grands points, par quatre grandes thèses de la philosophie stoïcienne. Alors, je vous les raconte, ces quatre grands éléments de réponse qui forment une totalité systématique, ces quatre grands éléments de réponse à la question de la sagesse requise face à la mort pour ne plus être tétanisé d'angoisse. La première grande idée, c'est que comme disait Héraclite, tout coule, pantareille, tout passe. C'est ce que les bouddhistes appelleront l'impermanence. Il y a énormément de connivence, si je puis dire, entre le stoïcisme et le bouddhisme. Là, c'est très proche. Rien n'est permanent dans le monde. Tout passe, tout coule. Petit texte d'Épictète que je vous lis, extrait des entretiens d'Épictète. Les feuilles tombent. La figue sèche remplace la figue fraîche, le raisin sec, la grappe mûre. En fait, il n'y a que la transformation d'états antérieurs en d'autres états. Il n'y a pas de destruction, mais un aménagement et une disposition bien réglées. Le monde est merveilleux, le cosmos est harmonieux, il est juste, il est beau, il est bon. Tout passe dans ce cosmos, mais rien ne disparaît. Tout se transforme, évidemment, mais rien n'est à proprement parler anéanti. La mort elle-même, nous allons y revenir, n'est qu'un passage. Et si on part de l'idée, commune aux stoïciens et aux bouddhistes d'ailleurs, si on part de l'idée que dans le monde, dans la vie des humains, dans la vie terrestre, tout est impermanent, que rien n'est permanent, que tout coule, que tout passe, que pantarei, hein, comme on dit en grec, comme disait Héraclite, alors évidemment, deuxième idée, la sagesse, c'est le non-attachement. Je prends là le vocabulaire des bouddhistes, mais c'est le même vocabulaire chez les stoïciens. La folie, c'est de s'attacher. Si vous vous attachez aux êtres que vous aimez, et évidemment l'amour pousse à l'attachement, si vous vous attachez à vos possessions, à votre villa, à votre argent, aux vanités, pire encore, eh bien, si vous vous attachez à quoi que ce soit, comme la réalité du monde, c'est l'impermanence, c'est la non-permanence des êtres et des choses, eh bien, l'attachement, c'est la folie suprême. La sagesse, c'est de ne pas s'attacher. Ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent. Les stoïciens, comme les bouddhistes, prêchent l'amitié, prêchent la compassion et la douceur. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'attacher. Il faut de la compassion, de l'amitié et de la douceur, mais certainement pas du lien, car le lien, c'est la folie par excellence. Et là, je vous lis un texte des Entretiens d'Épictète, qui est un texte à la fois très beau et très clair. Vous trouvez tout à fait l'équivalent chez Bouddha. C'est vraiment la même idée. Le premier et principal exercice, parce que je rappelle qu'il y avait des exercices de sagesse dans les grandes écoles grecques, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'est devenue la philosophie moderne et contrairement à ce que je fais aujourd'hui, la philosophie n'était pas un discours, mais une pratique. Pierre Hadot, un très grand historien de la Grèce, a montré ça de manière lumineuse. Dans les grandes écoles grecques, que ce soit dans l'Académie de Platon ou dans la Stoa des Stoïciens ou dans le Jardin d'Épicure ou même dans le lycée d'Aristote, dans toutes ces grandes écoles, on pratiquait des exercices de sagesse. Il s'agissait d'apprendre à vivre et pas simplement d'apprendre à penser. Le premier et principal exercice de sagesse, dit Épictète, celui qui mène d'emblée aux portes du souverain bien, c'est, lorsqu'une chose nous attache, de considérer qu'elle n'est pas de celle qu'on ne peut pas vous enlever, qu'elle est du même genre qu'une marmite ou une coupe de cristal dont on ne se trouble pas lorsqu'elle se brise parce qu'on se rappelle ce qu'elle est. C'est-à-dire un objet qui est mortel, si je puis dire, qui peut être brisé. Il en est de même ici. Si tu embrasses ton enfant, ton frère ou ton ami, ne t'abandonne surtout pas sans réserve à ton imagination. Rappelle-toi que tu aimes un mortel. Il t'a été accordé pour le moment, mais il peut toujours t'être retiré. Il peut toujours t'être enlevé. Quel mal y a-t-il à murmurer entre ses dents tout en embrassant son enfant ? Demain, il mourra. Voyez l'idée, l'être qu'on aime le plus, son enfant, eh bien, au moment même où on l'embrasse, eh bien, on doit se murmurer, si je puis dire, à l'oreille, le sage évidemment, et celui qui fait ça, demain il mourra. Autrement dit, il faut toujours garder à l'esprit cette idée d'impermanence. On peut aimer, on peut être dans la compassion, dans la douceur et l'amitié, mais jamais au point de s'attacher. Et bien évidemment, c'est très difficile. Le Dalaï Lama, dans un texte que j'ai longuement cité et commenté dans mes livres, rappelle que le seul moyen de ne pas s'attacher, si on veut vraiment accéder à la sagesse, c'est la vie monastique. Vous savez, moine, ça vient de monos, c'est celui qui vit seul, c'est l'étymologie. En tout cas, celui qui ne vit pas en famille, il ne vit pas seul parce qu'il est dans une communauté monastique, mais il vit seul au sens où il n'a pas de femme, et ni d'enfants. Et donc, le seul moyen, dit le Dalaï Lama, de ne pas s'attacher, ou en tout cas le meilleur, eh bien, c'est de ne pas avoir une vie de famille, c'est de ne pas avoir d'enfants, parce que, inévitablement, si vous avez une femme, si vous avez des enfants, si vous avez un mari, eh bien, l'amour vous conduira insensiblement à vous attacher, et donc il vous conduira vers l'absence de sagesse, vers cette folie de l'attachement. Troisième idée, quand on n'est pas attaché, quand on n'est pas lié à l'autre, lorsqu'on est conscient de l'impermanence, lorsqu'on est capable de se dire en embrassant son fils ou sa fille « demain il mourra », eh bien du coup, troisième idée, on est capable, justement, comme Ulysse, lorsqu'il rejoint Ithaque, de vivre au présent, d'habiter le présent. On n'est plus angoissé par l'avenir, on n'est plus tétanisé par la nostalgie du passé ou par les passions tristes, les hontes, les culpabilités, les regrets, les remords. On habite le présent, on est dans le flux du temps. C'est ça que ça veut dire habiter le présent. Et dans cette perspective-là, l'instant confine à l'éternité. Je vous dis pourquoi c'est très profond comme idée. Le sage qui parvient à habiter le présent, le sage qui parvient à ne plus relativiser le présent, soit à partir des nostalgies du passé, soit à partir des espoirs qui portent sur le futur, eh bien le sage qui parvient à habiter le présent, qui vit dans l'instant, vit dans un présent qui, n'étant plus relativisé par les autres dimensions du temps, confine à l'éternité. Habiter le présent, c'est vivre dans l'éternité. Il n'y a plus de différence entre le présent et l'éternel. C'est ça l'idée qui est derrière. Je cite là un petit texte de Sénèque qui dit ça de manière magnifique. Pierre Hadot, à nouveau, a écrit un très beau livre sur ces philosophies du présent, sur ces philosophies qui, comme celle de Nietzsche, comme celle des stoïciens, comme celle des épicuriens ou des bouddhistes, vous invitent à habiter le présent. Il y a d'ailleurs un proverbe bouddhiste qu'on peut citer dans ce contexte-là et qui va tout à fait dans le même sens que le message des stoïciens. Ce proverbe bouddhiste dit « N'oublie jamais, c'est Bouddha qui dit ça à son disciple, n'oublie jamais que l'instant que tu vis ici et maintenant est l'instant le plus important que ta vie. N'oublie jamais que les personnes qui sont en face de toi ici et maintenant sont les personnes les plus importantes de ta vie parce que c'est les seules réelles. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, seul le présent est et le sage est celui qui sait l'habiter. » Voici le petit texte de Sénèque. Il faut séparer ces deux choses, dit Sénèque, la crainte de l'avenir et le souvenir des difficultés d'autrefois, c'est-à-dire le futur et le passé. Ceci ne me concerne plus, ceci ne me concerne pas encore. Le passé ne me concerne plus, le futur ne me concerne pas encore. Le sage jouit du présent sans dépendre du futur. Libéré des lourds soucis qui torturent l'âme, il n'espère rien, il ne désire rien, il ne s'élance pas dans l'incertain, car il se contente de ce qu'il a. Et ne croit pas qu'il se contente de peu, car ce qu'il a, c'est toute chose. Bien sûr, puisque les choses, elles sont présentes. Voyez la différence avec le monde chrétien, qui est immense. Le pape Jean-Paul II avait écrit une encyclique qui s'appelle « Entrer dans l'espérance ». Eh bien, un sage grec dirait « Surtout, n'entrez pas dans l'espérance hein. ». Je ne développe pas cette idée, ce serait trop long ici, mais c'est juste une petite notation pour indiquer à quel point la sagesse grecque n'est pas la sagesse chrétienne. Et donc là, on a une philosophie de la mort. Le sage est celui qui parvient, c'est la quatrième idée. Ayant cette sagesse d'habiter le présent, ayant par conséquent cette sagesse d'être à sa place dans l'ordre cosmique, comme Ulysse est à sa place dans l'ordre cosmique une fois qu'il a rejoint Ithaque, et qu'il n'est plus comme il est quand il est en guerre ou quand il est en voyage, il n'est plus dans la nostalgie d'Ithaque ou dans l'espérance d'Ithaque, il est dans l'amour d'Ithaque, si je puis dire, il est dans la jouissance d'Ithaque, et bien lorsqu'on retrouve sa place dans l'ordre cosmique, et bien on comprend qu'on est soi-même un fragment d'éternité, puisque le cosmos est éternel, qu'on est un atome cosmique et que par conséquent, la mort n'est rien pour nous, elle n'est qu'un passage, elle n'est que la transformation d'un état en un autre. Alors, je n'évoque pas les autres réponses, ce serait trop long, je l'ai fait dans mes livres longuement en citant les textes. Je vous cite simplement un petit texte parce qu'il m'a toujours fait rire, un petit texte d'Épicure, c'est le texte le plus célèbre d'Épicure d'ailleurs, sur cette fameuse idée que la mort n'est rien pour nous. L'idée, je la dis tout de suite avant de lire le texte pour que vous le compreniez bien, l'idée c'est que quand je suis là, quand je suis vivant, bah, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, eh bien, c'est moi qui ne suis plus là, donc on ne se croise jamais, si je puis dire. Voilà le petit texte d'Épicure, il est célébrissime. « La mort n'est rien pour nous, puisque tant que nous sommes, la mort n'est pas là, et quand elle est là, c'est nous qui ne sommes plus là. Elle n'est donc en rapport ni avec les vivants, ni avec les morts, puisqu'elle n'est pas pour les premiers, et que les seconds ne sont plus. » Alors, si un argument de ce type, et quelle que soit par ailleurs la grandeur d'Épicure, parce que derrière il y a beaucoup de choses extrêmement profondes, il y a toute une théorie des désirs qui est très profonde et que je ne développe pas là, mais je dirais quand même un peu brutalement que si ce type d'argumentation avait jamais réussi à convaincre qui que ce soit de ne plus avoir peur de la mort, ça se saurait. L'argumentation a beau être rationnellement et logiquement parfaite, je prétends qu'elle n'a jamais convaincu personne. D'ailleurs, Lucrèce lui-même, le plus grand disciple d'Épicure, n'est pas convaincu par son maître sur ce point, et je crois que personne n'est convaincu. S'il suffisait d'avoir compris l'argument logique d'Épicure pour être débarrassé de la peur de la mort de ceux que nous aimons, de la peur de la mort de nos enfants, ou même de sa propre mort, encore une fois, ça se saurait. Et je voudrais vous lire là-dessus trois petits textes de trois philosophes, deux philosophes contemporains et puis un écrivain plus ancien, parce que je les trouve très très significatifs. Un premier texte de Marcel Conche qui a écrit d'ailleurs peut-être le plus beau livre sur les épicuriens, un magnifique petit livre sur les épicuriens, et Marcel Conche qui était donc un disciple, si on peut dire, d'Épicure, bon, qui avait finalement adopté cette argumentation selon laquelle laquelle la mort n'est rien pour nous. Et puis Marcel Conche raconte avec d'honnêteté, beaucoup de lucidité et de rigueur intellectuelle. D'ailleurs, c'est une lucidité, une rigueur qui lui était coutumière. C'est un très grand penseur, quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement, mais pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Et il raconte comment le jour où il découvre qu'il a un cancer, eh bien, Épicure ne lui sert plus à rien, et aucun philosophe avec lui. Il parle de son livre qui s'appelait « La mort et la pensée ». Il avait justement écrit un livre en 1973 qui s'appelait « La mort et la pensée », dans lequel, en gros, il défendait des thèses épicuriennes. « La mort n'est rien pour nous ». Bon, sagesse philosophique face à la mort. Et voici le texte de Marcel Conche. « La mort et la pensée », donc son livre, fut publié en 1973, il y a 33 ans. Je parlais alors de la mort, qui n'était pas encore ma mort. Les choses changèrent l'année suivante, j'eus un cancer. Dès lors, je fus hanté par la mort. Épicure ne m'aide pas. La mort est aussi obscène qu'inéluctable. J'admets avec Épicure, non comme lui par démonstration, mais simplement par conviction, qu'il n'y a rien à craindre dans la mort, dans le fait d'être mort. Mais pour être mort, il faut mourir. Je crains le passage, qui, même s'il est passage de quelque chose à rien, en lui-même n'est pas rien. Et donc on voit là l'aveu d'un philosophe épicurien d'aujourd'hui, eh bien, qui reconnaît que finalement toute cette sagesse épicurienne, le jour où le médecin vous apprend que vous avez un cancer, ne vous sert plus à rien. Un texte de Derrida, un texte là aussi je trouve très lucide, très honnête, un entretien accordé au Monde. Derrida lui aussi apprend qu'il a un cancer, et voilà ce qu'il écrit dans le Monde. « Apprendre à vivre, cela devrait signifier apprendre à mourir. » Et donc Derrida évoque ce vieux thème qui vient de Platon, qu'on retrouve chez Montaigne, « Que philosopher, c'est apprendre à mourir. » « Apprendre à vivre, cela devrait signifier apprendre à mourir. Apprendre en compte pour l'accepter la mortalité absolue, sans salut, ni résurrection, ni rédemption, ni pour soi, ni pour les autres. » Depuis Platon, c'est la vieille injonction philosophique. « Philosopher, c'est apprendre à mourir. » Je crois à cette vérité sans m'y rendre. De moins en moins. Je n'ai pas appris à accepter la mort. Je reste inéducable quant à la sagesse du savoir mourir. Je n'ai encore rien appris ou acquis à ce sujet. » Et je trouve que cet aveu, lui aussi, est magnifique. Et puis, un dernier texte que je voulais vous lire parce que je le trouve très drôle. Alors, il est écrit dans la langue ancienne, puisque c'est un texte de La Rochefoucauld, donc peut-être un peu plus difficile à entendre, mais je vais le lire lentement. Et je le trouve très, très ironique, très intelligent, lui aussi. Rien ne prouve davantage combien la mort est redoutable que la peine que les philosophes se donnent pour persuader qu'on la doit mépriser. Il est raisonnable de dire quelque chose de la fausseté du mépris de la mort. J'entends parler de ce mépris de la mort que les païens se vantent de tirer de leur propre force. On a écrit tout ce qui peut le plus persuader que la mort n'est point un mal. Et les hommes les plus faibles, aussi bien que les héros, ont donné 1000 exemples célèbres pour établir cette opinion. Cependant, je doute que personne de bon sens l'ait jamais cru. Et la peine que l'on prend pour le persuader aux autres et à soi-même fait assez voir que cette entreprise n'est pas aisée. Autrement dit, toutes les philosophies de la mort ne servent à rien. Elles n'ont jamais réussi à lever cette angoisse de mort chez personne. C'est ça l'idée, et quelle que soit la puissance de ces philosophies. Les stoïciens, les bouddhistes, les épicuriens, je n'ai pas cité Schopenhauer, mais là aussi, magnifique philosophie de la mort, c'est grandiose, c'est extrêmement intelligent, c'est très profond. Mais au final, quand le médecin vous dit que vous avez une maladie mortelle, ou quand le gendarme vous apprend que l'un de vos enfants va mourir parce qu'il a eu un accident, eh bien toute cette philosophie ne sert à rien. Alors, la religion. Et ces textes, je le dis, je les ai empruntés à un livre que j'aime beaucoup, à quelqu'un que j'aime beaucoup, à un de mes collègues philosophes, Denis Moreau, qui est professeur de philosophie à l'Université de Nantes et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les voies du salut ». Lui est un philosophe chrétien et il dit au fond, et c'est pourquoi il cite ces textes de Derrida, de Conche, de La Rochefoucauld, il dit au fond « Seule la promesse chrétienne tient vraiment la route ». Parce que la promesse chrétienne, c'est la promesse de la mort de la mort. Alors, dans une précédente émission, j'avais évoqué le fameux épisode de la mort de Lazare, justement. C'est-à-dire cet épisode dans lequel le Christ apprend la mort de son ami. Il pleure parce qu'il a, comme tout le monde, c'est l'homme-Dieu. Il est aussi homme que Dieu. Il fait l'épreuve de cette séparation. Et puis, il est loin de Lazare. Il attend que le corps de Lazare soit pourri pour que tout le monde... Et qu'il sente mauvais, dit le texte de l'Évangile de Jean, pour que tout le monde constate bien que Lazare est mort. Et il va pratiquer cette fameuse résurrection de la chair de Lazare. Il va lui redonner vie. C'est la doctrine du corps glorieux. C'est l'Évangile, Euangelia, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la résurrection des corps. La bonne nouvelle que nous allons retrouver après la mort, ceux que nous avons aimés, la bonne nouvelle selon laquelle l'amour est plus fort que la mort. Et donc, cette idée que nous allons retrouver après la mort ceux que nous avons aimés, eh bien, c'est une idée, dit Denis Moreau, et très justement, qui dynamise la vie présente. C'est pas simplement une idée pour plus tard. Si vous y croyez, ça change la vie. Et ça lève la peur. Là, pour une fois, la peur est vraiment vaincue. Il y a juste... comment dire, une condition, mais cette condition, elle n'est pas négligeable, c'est qu'il faut avoir la foi, évidemment. Si vous n'avez pas la foi, ça ne marche pas. Pardon de dire les choses de manière un peu vulgaire, au banc d'essai des doctrines du salut, la doctrine chrétienne est de loin la plus performante. Elle vous promet que vous allez retrouver vos enfants, vos femmes, vos maris, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, tous ceux que vous avez aimés. C'est formidable. Qu'est-ce que nous souhaitons ? Ne pas être seul, être toujours aimé, être toujours avec ceux que nous aimons. Ah ben justement, quelqu'un vient, il vous promet exactement ce que vous attendez. Voilà pourquoi moi j'ai toujours trouvé que c'était trop beau pour être vrai, mais je ne veux décourager personne, ceux qui ont la foi, tant mieux pour eux, mais évidemment, je reconnais volontiers, je concède volontiers à mon ami Denis Moreau que si on a la foi, le christianisme, il n'y a pas mieux. Et cette promesse, cette bonne nouvelle, elle est évidemment sublime. Il faut la foi simplement pour y croire. Et alors, elle a un avantage supplémentaire, c'est ce qui est développé d'ailleurs de manière extraordinairement profonde et très très, très puissante par saint Augustin dans les Confessions. Là aussi, j'ai analysé ça de près dans mes livres en citant les textes longuement. C'est ce que saint Augustin appelle l'amour en Dieu, qui va permettre justement de dépasser les difficultés du stoïcisme et du bouddhisme, c'est-à-dire les difficultés de cette philosophie du non-attachement. Parce que, au fond, ce que dit saint Augustin, c'est que si vous n'êtes pas croyant, alors oui, il ne faut pas s'attacher. Mais si vous êtes croyant, et si vous aimez en Dieu, si vous aimez votre frère, votre femme, votre fils en Dieu, alors vous pouvez vous permettre de vous attacher, contrairement au message stoïcien ou bouddhiste, vous pouvez vous attacher du moment que c'est en Dieu. Et il dit, il prononce cette phrase, « Aimer un mortel, c'est verser sur du sable », dit-il, sauf évidemment si on l'aime en Dieu, c'est-à-dire si on est relié par cette colonne d'immortalité, cette colonne de salut, qu'est la relation à Dieu. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans la théologie chrétienne, c'est ce que montrera un très grand théologien, Bonhoeffer, qui a été massacré par les nazis. Bonhoeffer, qui a fait une théologie du diable qui est tout à fait passionnante. Le diable, dans la théologie chrétienne, c'est pas celui qui vous tente par des décolletés plongeants ou des éclairs au chocolat. Ça, c'est la mythologie des curés. Le diable, dans la théologie chrétienne la plus profonde, c'est celui qui essaie de vous séparer de cette colonne de salut qu'est la relation à Dieu. C'est le serpent dans la Genèse, déjà. C'est celui qui essaye de vous séparer de cette colonne de salut, encore une fois, qui est la relation à Dieu, pour vous faire plonger dans l'enfer, qui est la désolation, c'est-à-dire l'isolement éternel. Alors que si vous aimez en Dieu, eh bien vous retrouverez ceux que vous avez aimés en Dieu, et donc vous pouvez, y compris en cette terre, vous attacher à eux. Mais encore une fois, pour que cette promesse ait un sens, pour qu'elle marche, si je puis dire, pardon d'être un peu trivial, eh bien il faut avoir la foi. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça dans les 5 ou 6 minutes qui restent encore dans cette émission ? Eh bien, je voudrais revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Gilgamesh, dont j'aime infiniment la sagesse implicite. Premier élément de réflexion, je vais simplement donner quelques éléments de réflexion pour ceux qui ne sont satisfaits, et c'est mon cas, ni des réponses philosophiques traditionnelles, ni des réponses religieuses, puisque je n'ai pas la foi, et que par conséquent, je suis obligé d'aller regarder ailleurs. Première idée, ça n'est pas parce qu'une histoire s'arrête qu'elle n'a pas de sens. C'est pas parce que la vie s'arrête que la vie n'a pas de sens. Encore une fois, ça n'est pas parce qu'un choral de Bach a une dernière note, ou un livre une dernière page, ou un film une dernière image, qu'il ne faut pas écouter un choral de Bach, qu'il ne faut pas lire un livre ou regarder un film. Au contraire, je dirais même, c'est raison de plus parce que ça se termine pour faire quelque chose de l'entretemps. C'est même ça qui donne le plus de sens à nos existences. Et donc, deuxième idée... Il faut être fidèle dans la vie. Fidèle, je ne parle pas des infidélités amoureuses, c'est une autre histoire, mais je parle de la fidélité au sens de fides, fides en latin qui désigne à la fois la confiance et la foi. Même quand une histoire d'amour se termine, qu'elle se termine par un divorce ou par une mort. Quand une histoire d'amour se termine, comme c'est souvent le cas par un divorce ou par une séparation, puisque j'ai évoqué ça dans une émission précédente, 60% de nos mariages d'amour se terminent par un divorce aujourd'hui, eh bien, ça ne veut pas dire que cette histoire soit un échec. Je m'élève vigoureusement contre l'idée que le divorce signifierait l'échec de l'amour qui a précédé, comme je m'élève contre l'idée que la mort signifierait l'absence de sens de la vie. Ça n'est pas parce qu'une histoire a une fin, une histoire d'amour se termine, mais tout a une fin. Ça n'est pas parce qu'une histoire d'amour se termine qu'il faut, parce qu'on prend un avocat et qu'on est obligé de dire du mal de sa femme ou de son mari, céder à cette tentation ignoble qui consiste à dévaloriser ce qu'on a vécu. Il faut aimer les femmes et les hommes qu'on a aimés, ou alors c'est qu'on est un imbécile, c'est qu'on s'est trompé. Mais si on a vraiment aimé quelqu'un, on l'aime pour la vie, on l'aime pas pour un temps. Et même si une histoire se termine parce qu'on a grandi, parce que le monde nous a changé, parce que on n'aime plus exactement les mêmes choses, ou parce qu'il y a l'usure du temps, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aimé, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rester fidèle à ce qu'on a aimé. De même que la mort n'est pas le non-sens de la vie, le divorce n'est pas le non-sens du mariage qui a précédé, ou la séparation le non-sens de l'amour qui a existé. Et donc il faut rester, je dirais, fidèle à nos amours, fidèle à nos vies, fidèle à nos valeurs spirituelles, au sens que j'avais défini dans la première émission. Et puis, peut-être une troisième idée. Et là, pour faire plaisir à certains de mes amis philosophes qui me faisaient observer que parler du sens de la vie pour un non-croyant n'avait pas de sens, puisque pour parler du sens de la vie, il faudrait se situer à l'extérieur de la vie, ce que seul un croyant peut faire. Bon, ce petit sophisme ne mène pas très loin, mais disons que pour éviter un malentendu, je veux bien concéder à certains de mes amis qui m'ont fait cette objection qu'il serait plus juste de parler du sens dans la vie. Quand je dis que l'amour donne du sens à nos vies, évidemment qu'il donne du sens non pas à nos vies en se plaçant de l'extérieur, mais c'est ce qui donne du sens dans nos vies. Alors, disons comme ça, c'est ce qui donne du sens dans nos vies. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sens ? Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce sens de l'amour, alors que la mort est là, alors que la séparation aussi est très souvent là ? Eh bien, je trouve que c'est la dernière idée qui me servira de conclusion, il y a quelque chose de génial dans la critique de la faculté de juger de Kant, lorsque Kant parle de la pensée élargie. Par opposition à l'esprit borné. La pensée élargie, c'est cette activité de l'esprit qui consiste non seulement à se mettre à la place des autres dans une discussion argumentée où on ne partage pas le même point de vue à l'origine. Donc c'est cette attitude qui consiste à se mettre à la place des autres, mais aussi c'est plus largement l'expérience, au fond, qui nous offre la possibilité dans nos existences d'élargir l'horizon. Pour prendre un exemple tout simple, lorsque j'apprends une langue étrangère, eh bien, je quitte ma particularité d'origine qui est le français. Lorsque j'ai fait mes études en Allemagne, pour évoquer des souvenirs personnels, eh bien, je me suis arraché à ma culture française, à ma langue. Et ça fait mal d'ailleurs, parce que voilà, dans les dîners en ville, quand on ne parle pas très bien, on ne comprend jamais les plaisanteries. Pour séduire les jeunes filles, c'est plus difficile qu'en français, etc. Et donc on est empoté, on n'est pas à l'aise, on n'est pas heureux. Et puis quand on a accompli cet arrachement et qu'on maîtrise enfin la langue de l'autre, eh bien on s'aperçoit qu'on est en quelque façon plus humain, qu'on élargit l'horizon. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, connaître et aimer, c'est le même mot. Ayant élargi l'horizon, ayant une langue à sa disposition, c'est-à-dire aussi toute une culture derrière, toute une pensée derrière, tout un rapport aux autres qui s'élargit, eh bien, s'arrachant à sa particularité, on entre dans plus d'universalité, on s'hominise, si je puis dire, on s'humanise, on élargit l'horizon, on quitte son petit point de vue particulier et on entre, encore une fois, dans plus d'humanité, c'est-à-dire à la fois dans plus d'intelligence, dans plus de compréhension des autres, mais aussi dans plus d'amour des autres. Et je prends cette idée à Kant, à la critique de la faculté de juger, mais cette idée, elle est merveilleusement exposée, si je puis dire, dans un poème de Victor Hugo. Victor Hugo est déjà très vieux et il écrit un poème à la vieillesse, un éloge de la vieillesse. C'est ce merveilleux poème de la légende des siècles qui s'appelle « Beaux endormis ». Je le cite là de mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il dit ceci, sauf quelques peut-être modifications de syllabes. Il dit, donc Beaux est très vieux, Beaux va épouser une jeune femme, Ruth, qui est une Moabite, il va avoir une une longue descendance. Et Victor Hugo écrit ceci: Boz était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Boz plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Eh bien, cette lumière, cette grandeur par opposition à la flamme, à la beauté de la jeunesse, cette lumière qu'on voit seulement dans l'œil du vieillard, eh bien, c'est précisément le résultat, si je puis dire, l'effet de cet élargissement de l'horizon qui a été permis par l'expérience. Voilà peut-être le sens de nos vies, c'est d'élargir l'horizon, c'est-à-dire d'être à la fois plus intelligent au sens de la compréhension des autres, peut-être plus aimant aussi, avoir moins peur d'eux, et puis peut-être aussi, comme ce vieillard dont parle Victor Hugo, avoir peut-être, ayant plus de compréhension des autres, la possibilité aussi d'être aimé par eux, comme Boz va être aimé par cette jeune femme. Voilà peut-être ce qu'on pouvait dire, en tout cas ce que j'avais envie de vous dire. C'est pas ce qu'on pouvait dire, on peut dire mille autres choses, mais ce que j'avais envie de vous dire sur cette contradiction entre l'amour et la mort aujourd'hui. Dimanche prochain, je vous parlerai des rapports entre vie publique et vie privée, c'est-à-dire des conséquences collectives, publiques et même politiques de cette révolution de l'amour, de cette histoire de la vie privée, et bien justement dans le domaine de l'espace public. La contradiction entre l'amour et la mort. Pourquoi est-ce qu'il y a une contradiction qui prend une tournure nouvelle? Parce que, bien évidemment, cette contradiction entre l'amour, 8e siècle avant Jésus-Christ, donc 10 siècles avant l'Odyssée d'Homère, ce livre a été écrit d'abord en langue sumérienne, on sait que ce sont les Libans, eh bien, Enkidu et Gilgamesh vont partir à sa conquête, si je puis dire, ils vont partir faire la guerre contre lui, que tous les êtres humains qui habitent dans sa ville, et ce Gilgamesh va en quelque sorte profiter de sa force pour dire « Mais est-ce que moi aussi je vais mourir ?» Voilà encore le texte de l'épopée. « Devrais-je donc mourir moi aussi ? Ne me faudra-t-il pas ressembler à Enkidu, l'astre taurin ? Même si ce sont des créatures peu sympathiques, ce sont quand même des créatures divines. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien les dieux tiennent conseil et Gilgamesh va faire un voyage pour retrouver Utanapishti. Mais évidemment c'est un voyage qui est semé d'embûches terribles. Il est totalité face à sa quête de sagesse ou de sérénité par rapport à ce déchirement qu'il a vécu entre la dite « va au rebours te bénir ». maudire, dire du mal, bénir, dire du bien, eh bien, Enkidu comprend que, en vérité, il n'y a que la transformation d'états antérieurs en d'autres états. Il n'y a pas de destruction, mais un aménagement et une disposition bien réglée. Le monde est merveilleux, le monde, le cosmos est harmonieux, il est juste, il est beau, il est bon. Tout passe dans ce cosmos, mais rien ne disparaît. Tout se transforme, évidemment, mais rien n'est, à proprement parler, anéanti. La mort elle-même, nous allons y revenir, n'est qu'un passage. Et si on part de l'idée, commune aux stoïciens et aux bouddhistes d'ailleurs, si on part de l'idée que dans le monde, dans la vie des humains, dans la vie terrestre, tout est impermanent, que rien n'est permanent, que tout coule, que tout passe, que pantarei, hein, comme on dit en grec, comme disait Héraclite, alors évidemment, deuxième idée, la sagesse, c'est le non-attachement. Je prends là le vocabulaire des bouddhistes, mais c'est le même vocabulaire chez les stoïciens. La folie, c'est de s'attacher. Si vous vous attachez aux êtres que vous aimez, et évidemment l'amour pousse à l'attachement, si vous vous attachez à vos possessions, à votre villa, à votre argent, aux vanités, pire encore, eh bien, si vous vous attachez à quoi que ce soit, comme la réalité du monde, c'est l'impermanence, c'est la non-permanence des êtres et des choses, eh bien, l'attachement, c'est la folie suprême. La sagesse, c'est de ne pas s'attacher. Ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent. Les stoïciens, comme les bouddhistes, prêchent l'amitié, prêchent la compassion et la douceur. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'attacher. Il faut de la compassion, de l'amitié et de la douceur, mais certainement pas du lien, car le lien, c'est la folie par excellence. Et là, je vous lis un texte des Entretiens d'Épictète, qui est un texte à la fois très beau et très clair. Vous trouvez tout à fait l'équivalent chez Bouddha. C'est vraiment la même idée. Le premier et principal exercice, parce que je rappelle qu'il y avait des exercices de sagesse dans les grandes écoles grecques, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'est devenue la philosophie moderne et contrairement à ce que je fais aujourd'hui, la philosophie n'était pas un discours, mais une pratique. Pierre Hadot, un très grand historien de la Grèce, a montré ça de manière lumineuse. Dans les grandes écoles grecques, que ce soit dans l'Académie de Platon ou dans la Stoa des stoïciens ou dans le Jardin d'Épicure ou même dans le lycée d'Aristote, dans toutes ces grandes écoles, on pratiquait des exercices de sagesse. Il s'agissait d'apprendre à vivre et pas simplement d'apprendre à penser. Le premier et principal exercice de sagesse, dit Épictète, celui qui mène d'emblée aux portes du souverain bien, c'est lorsqu'une chose nous attache de considérer qu'elle n'est pas de celle qu'on ne peut pas vous enlever, qu'elle est du même genre qu'une marmite ou une coupe de cristal dont on ne se trouble pas lorsqu'elle se brise parce qu'on se rappelle ce qu'elle est. C'est-à-dire un objet qui est mortel, si je puis dire, qui peut être brisé. Il en est de même ici. Si tu embrasses ton enfant, ton frère ou ton ami, ne t'abandonne surtout pas sans réserve à ton imagination. Rappelle-toi que tu aimes un mortel. Il t'a été accordé pour le moment, mais il peut toujours t'être retiré. Il peut toujours t'être enlevé. Quel mal y a-t-il à murmurer entre ses dents tout en embrassant son enfant ? Demain, il mourra. Voyez l'idée, l'être qu'on aime le plus, son enfant, eh bien, au moment même où on l'embrasse, eh bien, on doit se murmurer, si je puis dire, à l'oreille, le sage évidemment, et celui qui fait ça, demain il mourra. Autrement dit, il faut toujours garder à l'esprit cette idée d'impermanence. On peut aimer, on peut être dans la compassion, dans la douceur et l'amitié, mais jamais au point de s'attacher. Et bien évidemment, c'est très difficile. Le Dalaï Lama, dans un texte que j'ai longuement cité et commenté dans mes livres, rappelle que le seul moyen de ne pas s'attacher, si on veut vraiment accéder à la sagesse, c'est la vie monastique. Hein, vous savez, moine, ça vient de monos, c'est celui qui vit seul, c'est l'étymologie. En tout cas, celui qui ne vit pas en famille, il ne vit pas seul parce qu'il est dans une communauté monastique, mais il vit seul au sens où il n'a pas de femme, ni d'enfant. Et donc, le seul moyen, dit le Dalaï Lama, de ne pas s'attacher, ou en tout cas le meilleur, eh bien, c'est de ne pas avoir une vie de famille, c'est de ne pas avoir d'enfant, parce que, inévitablement, si vous avez une femme, si vous avez des enfants, si vous avez un mari, eh bien, l'amour vous conduira insensiblement à vous attacher, et donc il vous conduira vers l'absence de sagesse, vers cette folie de l'attachement. Troisième idée, quand on n'est pas attaché, quand on n'est pas lié à l'autre, lorsqu'on est conscient de l'impermanence, lorsqu'on est capable de se dire en embrassant son fils ou sa fille, demain il mourra, eh bien du coup, troisième idée, on est capable, justement, comme Ulysse, lorsqu'il rejoint Ithaque, de vivre au présent, d'habiter le présent. On n'est plus angoissé par l'avenir, on n'est plus tétanisé par la nostalgie du passé ou par les passions tristes, les hontes, les culpabilités, les regrets, les remords. On habite le présent, on est dans le flux du temps. C'est ça que ça veut dire habiter le présent. Et dans cette perspective-là, l'instant confine à l'éternité. Je vous dis pourquoi c'est très profond comme idée. Le sage qui parvient à habiter le présent, le sage qui parvient à ne plus relativiser le présent, soit à partir des nostalgies du passé, soit à partir des espoirs qui portent sur le futur, eh bien le sage qui parvient à habiter le présent, qui vit dans l'instant, vit dans un présent qui, n'étant plus relativisé par les autres dimensions du temps, confine à l'éternité. Habiter le présent, c'est vivre dans l'éternité. Il n'y a plus de différence entre le présent et l'éternel. C'est ça l'idée qui est derrière. Je cite là un petit texte de Sénèque qui dit ça de manière magnifique. Pierre Hadot, à nouveau, a écrit un très beau livre sur ces philosophies du présent, sur ces philosophies qui, comme celle de Nietzsche, comme celle des stoïciens, comme celle des épicuriens ou des bouddhistes, vous invitent à habiter le présent. Il y a d'ailleurs un proverbe bouddhiste qu'on peut citer dans ce contexte-là et qui va tout à fait dans le même sens que le message des stoïciens. Ce proverbe bouddhiste dit « N'oublie jamais, c'est Bouddha qui dit ça à son disciple, n'oublie jamais que l'instant que tu vis ici et maintenant est l'instant le plus important que ta vie. N'oublie jamais que les personnes qui sont en face de toi ici et maintenant sont les personnes les plus importantes de ta vie parce que c'est les seules réelles. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, seul le présent est et le sage est celui qui sait l'habiter. » Voici le petit texte de Sénèque. Il faut séparer ces deux choses, dit Sénèque, la crainte de l'avenir et le souvenir des difficultés d'autrefois, c'est-à-dire le futur et le passé. Ceci ne me concerne plus, ceci ne me concerne pas encore. Le passé ne me concerne plus, le futur ne me concerne pas encore. Le sage jouit du présent sans dépendre du futur. Libéré des lourds soucis qui torturent l'âme, il n'espère rien, il ne désire rien, il ne s'élance pas dans l'incertain, car il se contente de ce qu'il a. Et ne croit pas qu'il se contente de peu, car ce qu'il a, c'est toute chose. Bien sûr, puisque les choses, elles sont présentes. Voyez la différence avec le monde chrétien, qui est immense. Le pape Jean-Paul II avait écrit une encyclique qui s'appelle « Entrer dans l'espérance ». Eh bien, un sage grec dirait « Surtout, n'entrez pas dans l'espérance hein. ». Je ne développe pas cette idée, ce serait trop long ici, mais c'est juste une petite notation pour indiquer à quel point la sagesse grecque n'est pas la sagesse chrétienne. Et donc là, on a une philosophie de la mort. Le sage est celui qui parvient, c'est la quatrième idée. Ayant cette sagesse d'habiter le présent, ayant par conséquent cette sagesse d'être à sa place dans l'ordre cosmique, comme Ulysse est à sa place dans l'ordre cosmique une fois qu'il a rejoint Ithaque, et qu'il n'est plus comme il est quand il est en guerre ou quand il est en voyage, il n'est plus dans la nostalgie d'Ithaque ou dans l'espérance d'Ithaque, il est dans l'amour d'Ithaque, si je puis dire, il est dans la jouissance d'Ithaque, et bien lorsqu'on retrouve sa place dans l'ordre cosmique, et bien on comprend qu'on est soi-même un fragment d'éternité, puisque le cosmos est éternel, qu'on est un atome cosmique et que par conséquent, la mort n'est rien pour nous, elle n'est qu'un passage, elle n'est que la transformation d'un état en un autre. Alors, je n'évoque pas les autres réponses, ce serait trop long, je l'ai fait dans mes livres longuement en citant les textes. Je vous cite simplement un petit texte parce qu'il m'a toujours fait rire, un petit texte d'Épicure, c'est le texte le plus célèbre d'Épicure d'ailleurs, sur cette fameuse idée que la mort n'est rien pour nous. L'idée, je la dis tout de suite avant de lire le texte pour que vous le compreniez bien, l'idée c'est que quand je suis là, quand je suis vivant, bah, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, eh bien, c'est moi qui ne suis plus là, donc on ne se croise jamais, si je puis dire. Voilà le petit texte d'Épicure, il est célébrissime. « La mort n'est rien pour nous, puisque tant que nous sommes, la mort n'est pas là, et quand elle est là, c'est nous qui ne sommes plus là. Elle n'est donc en rapport ni avec les vivants, ni avec les morts, puisqu'elle n'est pas pour les premiers, et que les seconds ne sont plus. » Alors, si un argument de ce type, et quelle que soit par ailleurs la grandeur d'Épicure, parce que derrière il y a beaucoup de choses extrêmement profondes, il y a toute une théorie des désirs qui est très profonde et que je ne développe pas là, mais je dirais quand même un peu brutalement que si ce type d'argumentation avait jamais réussi à convaincre qui que ce soit de ne plus avoir peur de la mort, ça se saurait. L'argumentation a beau être rationnellement et logiquement parfaite, je prétends qu'elle n'a jamais convaincu personne. D'ailleurs, Lucrèce lui-même, le plus grand disciple d'Épicure, n'est pas convaincu par son maître sur ce point, et je crois que personne n'est convaincu. S'il suffisait d'avoir compris l'argument logique d'Épicure pour être débarrassé de la peur de la mort de ceux que nous aimons, de la peur de la mort de nos enfants, ou même de sa propre mort, encore une fois, ça se saurait. Et je voudrais vous lire là-dessus trois petits textes de trois philosophes, deux philosophes contemporains et puis un écrivain plus ancien, parce que je les trouve très très significatifs. Un premier texte de Marcel Conche qui a écrit d'ailleurs peut-être le plus beau livre sur les épicuriens, un magnifique petit livre sur les épicuriens, et Marcel Conche qui était donc un disciple, si on peut dire, d'Épicure, bon, qui avait finalement adopté cette argumentation selon laquelle la mort n'est rien pour nous. Et puis Marcel Conche raconte avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de lucidité et de rigueur intellectuelle. D'ailleurs, c'est une lucidité, une rigueur qui lui était coutumière. C'est un très grand penseur, quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement, mais pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Et il raconte comment le jour où il découvre qu'il a un cancer, eh bien, Épicure ne lui sert plus à rien, et aucun philosophe avec lui. Il parle de son livre qui s'appelait « La mort et la pensée ». Il avait justement écrit un livre en 1973 qui s'appelait « La mort et la pensée », dans lequel, en gros, il défendait des thèses épicuriennes. « La mort n'est rien pour nous ». Bon, sagesse philosophique face à la mort. Et voici le texte de Marcel Conche. « La mort et la pensée », donc son livre, fut publié en 1973, il y a 33 ans. Je parlais alors de la mort qui n'était pas encore ma mort. Les choses changèrent l'année suivante, j'eus un cancer. Dès lors, je fus hanté par la mort. Épicure ne m'aide pas. La mort est aussi obscène qu'inéluctable. J'admets avec Épicure, non comme lui par démonstration, mais simplement par conviction, qu'il n'y a rien à craindre dans la mort, dans le fait d'être mort. Mais pour être mort, il faut mourir. Je crains le passage, qui, même s'il est passage de quelque chose à rien, en lui-même n'est pas rien. Et donc on voit là l'aveu d'un philosophe épicurien d'aujourd'hui, eh bien, qui reconnaît que finalement toute cette sagesse épicurienne, le jour où le médecin vous apprend que vous avez un cancer, ne vous sert plus à rien. Un texte de Derrida, un texte là aussi je trouve très lucide, très honnête, un entretien accordé au Monde. Derrida lui aussi apprend qu'il a un cancer, et voilà ce qu'il écrit dans le Monde. « Apprendre à vivre, cela devrait signifier apprendre à mourir. » Et donc Derrida évoque ce vieux thème qui vient de Platon, qu'on retrouve chez Montaigne, que philosopher, c'est apprendre à mourir. « Apprendre à vivre, cela devrait signifier apprendre à mourir, à prendre en compte pour l'accepter la mortalité absolue, sans salut, ni résurrection, ni rédemption, ni pour soi, ni pour les autres. Depuis Platon, c'est la vieille injonction philosophique. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Je crois à cette vérité sans m'y rendre. » De moins en moins. Je n'ai pas appris à accepter la mort. Je reste inéducable quant à la sagesse du savoir mourir. Je n'ai encore rien appris ou acquis à ce sujet. Et je trouve que cet aveu, lui aussi, est magnifique. Et puis, un dernier texte que je voulais vous lire parce que je le trouve très drôle. Alors, il est écrit dans la langue ancienne, puisque c'est un texte de La Rochefoucauld, donc peut-être un peu plus difficile à entendre, mais je vais le lire lentement. Et je le trouve très, très ironique, très intelligent, lui aussi. Rien ne prouve davantage combien la mort est redoutable que la peine que les philosophes se donnent pour persuader qu'on la doit mépriser. Il est raisonnable de dire quelque chose de la fausseté du mépris de la mort. J'entends parler de ce mépris de la mort que les païens se vantent de tirer de leur propre force. On a écrit tout ce qui peut le plus persuader que la mort n'est point un mal. Et les hommes les plus faibles, aussi bien que les héros, ont donné 1000 exemples célèbres pour établir cette opinion. Cependant, je doute que personne de bon sens l'ait jamais cru. Et la peine que l'on prend pour le persuader aux autres et à soi-même fait assez voir que cette entreprise n'est pas aisée. Autrement dit, toutes les philosophies de la mort ne servent à rien. Elles n'ont jamais réussi à lever cette angoisse de mort chez personne. C'est ça l'idée, et quelle que soit la puissance de ces philosophies. Les stoïciens, les bouddhistes, les épicuriens, je n'ai pas cité Schopenhauer, mais là aussi, magnifique philosophie de la mort, c'est grandiose, c'est extrêmement intelligent, c'est très profond. Mais au final, quand le médecin vous dit que vous avez une maladie mortelle, ou quand le gendarme vous apprend que l'un de vos enfants va mourir parce qu'il a eu un accident, eh bien, toute cette philosophie ne sert à rien. Alors, la religion, Et ces textes, je le dis, je les ai empruntés à un livre que j'aime beaucoup, à quelqu'un que j'aime beaucoup, à un de mes collègues philosophes, Denis Moreau, qui est professeur de philosophie à l'Université de Nantes et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les voies du salut ». Lui est un philosophe chrétien et il dit au fond, et c'est pourquoi il cite ces textes de Derrida, de Conge, de La Rochefoucauld, il dit au fond « Seule la promesse chrétienne tient vraiment la route ». Parce que la promesse chrétienne, c'est la promesse de la mort de la mort. Alors, dans une précédente émission, j'avais évoqué le fameux épisode de la mort de Lazare, justement. C'est-à-dire cet épisode dans lequel le Christ apprend la mort de son ami. Il pleure parce qu'il a, comme tout le monde, c'est l'homme-Dieu. Il est aussi homme que Dieu. Il fait l'épreuve de cette séparation. Et puis, il est loin de Lazare. Il attend que le corps de Lazare soit pourri pour que tout le monde... Et qu'il sente mauvais, dit le texte de l'évangile de Jean, pour que tout le monde constate bien que Lazare est mort. Et il va pratiquer cette fameuse résurrection de la chair de Lazare. Il va lui redonner vie. C'est la doctrine du corps glorieux. C'est l'évangile, Evangelia, la bonne nouvelle de la résurrection des corps. La bonne nouvelle que nous allons retrouver après la mort, ceux que nous avons aimés, la bonne nouvelle selon laquelle l'amour est plus fort que la mort. Et donc, cette idée que nous allons retrouver après la mort ceux que nous avons aimés, eh bien, c'est une idée, dit Denis Moreau, et très justement, qui dynamise la vie présente. C'est pas simplement une idée pour plus tard. Si vous y croyez, ça change la vie et ça lève la peur. Là, pour une fois, la peur est vraiment vaincue. Il y a juste... comment dire, une condition, mais cette condition, elle n'est pas négligeable, c'est qu'il faut avoir la foi, évidemment. Si vous n'avez pas la foi, ça ne marche pas. Pardon de dire les choses de manière un peu vulgaire, au banc d'essai des doctrines du salut, la doctrine chrétienne est de loin la plus performante. Elle vous promet que vous allez retrouver vos enfants, vos femmes, vos maris, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, tous ceux que vous avez aimés. C'est formidable. Qu'est-ce que nous souhaitons ? Ne pas être seul, être toujours aimé, être toujours avec ceux que nous aimons. Ah ben justement, quelqu'un vient, il vous promet exactement ce que vous attendez. Voilà pourquoi moi j'ai toujours trouvé que c'était trop beau pour être vrai, mais je ne veux décourager personne, ceux qui ont la foi, tant mieux pour eux, mais évidemment, je reconnais volontiers, je concède volontiers à mon ami Denis Moreau que si on a la foi, le christianisme, il n'y a pas mieux. Et cette promesse, cette bonne nouvelle, elle est évidemment sublime. Il faut la foi simplement pour y croire. Et alors, elle a un avantage supplémentaire, c'est ce qui est développé d'ailleurs de manière extraordinairement profonde et très très, très puissante par saint Augustin dans les Confessions. Là aussi, j'ai analysé ça de près dans mes livres en citant les textes longuement. C'est ce que saint Augustin appelle l'amour en Dieu, qui va permettre justement de dépasser les difficultés du stoïcisme et du bouddhisme, c'est-à-dire les difficultés de cette philosophie du non-attachement. Parce que, au fond, ce que dit saint Augustin, c'est que si vous n'êtes pas croyant, alors oui, il ne faut pas s'attacher. Mais si vous êtes croyant, et si vous aimez en Dieu, si vous aimez votre frère, votre femme, votre fils en Dieu, alors vous pouvez vous permettre de vous attacher, contrairement au message stoïcien ou bouddhiste, vous pouvez vous attacher du moment que c'est en Dieu. Et il dit, il prononce cette phrase, « Aimer un mortel, c'est verser sur du sable », dit-il, sauf évidemment si on l'aime en Dieu, c'est-à-dire si on est relié par cette colonne d'immortalité, cette colonne de salut, qu'est la relation à Dieu. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans la théologie chrétienne, c'est ce que montrera un très grand théologien, Bonhoeffer, qui a été massacré par les nazis, Bonhoeffer qui a fait une théologie du diable qui est tout à fait passionnante. Le diable, dans la théologie chrétienne, c'est pas celui qui vous tente par des décolletés plongeants ou des éclairs au chocolat, ça c'est la mythologie des curés. Le diable, dans la théologie chrétienne la plus profonde, c'est celui qui essaie de vous séparer de cette colonne de salut qu'est la relation à Dieu, c'est le serpent dans la Genèse, déjà. C'est celui qui essaye de vous séparer de cette colonne de salut, encore une fois, qui est la relation à Dieu, pour vous faire plonger dans l'enfer, qui est la désolation, c'est-à-dire l'isolement éternel. Alors que si vous aimez en Dieu, eh bien vous retrouverez ceux que vous avez aimés en Dieu, et donc vous pouvez, y compris en cette terre, vous attacher à eux. Mais encore une fois, pour que cette promesse ait un sens, pour qu'elle marche, si je puis dire, pardon d'être un peu trivial, eh bien il faut avoir la foi. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça dans les 5 ou 6 minutes qui restent encore dans cette émission? Eh bien, je voudrais revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Gilgamesh, dont j'aime infiniment la sagesse implicite. Premier élément de réflexion, je vais simplement donner quelques éléments de réflexion pour ceux qui ne sont satisfaits, et c'est mon cas, ni des réponses philosophiques traditionnelles, ni des réponses religieuses, puisque je n'ai pas la foi, et que par conséquent, je suis obligé d'aller regarder ailleurs. Première idée, ça n'est pas parce qu'une histoire s'arrête qu'elle n'a pas de sens. C'est pas parce que la vie s'arrête que la vie n'a pas de sens. Encore une fois, ça n'est pas parce qu'un choral de Bach a une dernière note, ou un livre une dernière page, ou un film une dernière image, qu'il ne faut pas écouter un choral de Bach, qu'il ne faut pas lire un livre ou regarder un film. Au contraire, je dirais même, c'est raison de plus parce que ça se termine pour faire quelque chose de l'entretemps. C'est même ça qui donne le plus de sens à nos existences. Et donc, deuxième idée, il faut être fidèle dans la vie. Fidèle, je ne parle pas des infidélités amoureuses, c'est une autre histoire, mais je parle de la fidélité au sens de fides, fides en latin qui désigne à la fois la confiance et la foi. Même quand une histoire d'amour se termine, et qu'elle se termine par un divorce ou par une mort, quand une histoire d'amour se termine, comme c'est souvent le cas par un divorce ou par une séparation, puisque j'ai évoqué ça dans une émission précédente, 60% de nos mariages d'amour se terminent par un divorce aujourd'hui, eh bien, ça ne veut pas dire que cette histoire soit un échec. Je m'élève vigoureusement contre l'idée que le divorce signifierait l'échec de l'amour qui a précédé, comme je m'élève contre l'idée que la mort signifierait l'absence de sens de la vie. Ça n'est pas parce qu'une histoire a une fin, une histoire d'amour se termine, mais tout a une fin. Ça n'est pas parce qu'une histoire d'amour se termine qu'il faut, parce qu'on prend un avocat et qu'on est obligé de dire du mal de sa femme ou de son mari, céder à cette tentation ignoble qui consiste à dévaloriser ce qu'on a vécu. Il faut aimer les femmes et les hommes qu'on a aimés, ou alors c'est qu'on est un imbécile, c'est qu'on s'est trompé. Mais si on a vraiment aimé quelqu'un, on l'aime pour la vie, on l'aime pas pour un temps. Et même si une histoire se termine parce qu'on a grandi, parce que le monde nous a changé, parce que on n'aime plus exactement les mêmes choses, ou parce qu'il y a l'usure du temps, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aimé, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rester fidèle à ce qu'on a aimé. De même que la mort n'est pas le non-sens de la vie, le divorce n'est pas le non-sens du mariage qui a précédé, ou la séparation le non-sens de l'amour qui a existé. Et donc il faut rester, je dirais, fidèle à nos amours, fidèle à nos vies, fidèle à nos valeurs spirituelles, au sens que j'avais défini dans la première émission. Et puis, peut-être une troisième idée. Et là, pour faire plaisir à certains de mes amis philosophes qui me faisaient observer que parler du sens de la vie pour un non-croyant n'avait pas de sens, puisque pour parler du sens de la vie, il faudrait se situer à l'extérieur de la vie, ce que seul un croyant peut faire. Bon, ce petit sophisme ne mène pas très loin, mais disons que pour éviter un malentendu, je veux bien concéder à certains de mes amis qui m'ont fait cette objection qu'il serait plus juste de parler du sens dans la vie. Quand je dis que l'amour donne du sens à nos vies, évidemment qu'il donne du sens non pas à nos vies en se plaçant de l'extérieur, mais c'est ce qui donne du sens dans nos vies. Alors, disons comme ça, c'est ce qui donne du sens dans nos vies. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sens? Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce sens de l'amour, alors que la mort est là, alors que la séparation aussi est très souvent là? Eh bien, je trouve que c'est la dernière idée qui me servira de conclusion, il y a quelque chose de génial dans la critique de la faculté de juger de Kant, lorsque Kant parle de la pensée élargie. Par opposition à l'esprit borné. La pensée élargie, c'est cette activité de l'esprit qui consiste non seulement à se mettre à la place des autres dans une discussion argumentée où on ne partage pas le même point de vue à l'origine. Donc c'est cette attitude qui consiste à se mettre à la place des autres, mais aussi c'est plus largement l'expérience, au fond, qui nous offre la possibilité dans nos existences d'élargir l'horizon. Pour prendre un exemple tout simple, lorsque j'apprends une langue étrangère, eh bien, je quitte ma particularité d'origine qui est le français. Lorsque j'ai fait mes études en Allemagne, pour évoquer des souvenirs personnels, eh bien, je me suis arraché à ma culture française, à ma langue. Et ça fait mal d'ailleurs, parce que voilà, dans les dîners en ville, quand on ne parle pas très bien, on ne comprend jamais les plaisanteries. Pour séduire les jeunes filles, c'est plus difficile qu'en français, etc. Et donc, on est empoté, on n'est pas à l'aise, on n'est pas heureux. Et puis, quand on a accompli cet arrachement et qu'on maîtrise enfin la langue de l'autre, eh bien, on s'aperçoit qu'on est en quelque façon plus humain, qu'on élargit l'horizon. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, connaître et aimer, c'est le même mot. Ayant élargi l'horizon, ayant une langue à sa disposition, c'est-à-dire aussi toute une culture derrière, toute une pensée derrière, tout un rapport aux autres qui s'élargit, eh bien, s'arrachant à sa particularité, on entre dans plus d'universalité, on s'hominise, si je puis dire, on s'humanise, on élargit l'horizon, on quitte son petit point de vue particulier et on entre, encore une fois, dans plus d'humanité, c'est-à-dire à la fois dans plus d'intelligence, dans plus de compréhension des autres, mais aussi dans plus d'amour des autres. Et je prends cette idée à Kant, à la critique de la faculté de juger, mais cette idée, elle est merveilleusement exposée, si je puis dire, dans un poème de Victor Hugo. Victor Hugo est déjà très vieux et il écrit un poème à la vieillesse, un éloge de la vieillesse. C'est ce merveilleux poème de la légende des siècles qui s'appelle « Beaux endormis ». Je le cite là de mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il dit ceci, sauf quelques peut-être modifications de syllabes. Il dit, donc Boz est très vieux, Boz va épouser une jeune femme, Ruth, qui est une Moabite, il va avoir une longue descendance, et Victor Hugo écrit ceci, « Boz était bon maître et fidèle parent, il était généreux quoiqu'il fût économe, les femmes regardaient Boz plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants, et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard on voit de la lumière. » Eh bien, cette lumière, cette grandeur par opposition à la flamme, à la beauté de la jeunesse, cette lumière qu'on voit seulement dans l'œil du vieillard, eh bien, c'est précisément le résultat, si je puis dire, l'effet de cet élargissement de l'horizon qui a été permis par l'expérience. Voilà peut-être le sens de nos vies, c'est d'élargir l'horizon, c'est-à-dire d'être à la fois plus intelligent au sens de la compréhension des autres, peut-être plus aimant aussi, avoir moins peur d'eux, et puis peut-être aussi, comme ce vieillard dont parle Victor Hugo, avoir peut-être, ayant plus de compréhension des autres, la possibilité aussi d'être aimé par eux, comme Boz va être aimé par cette jeune femme. Voilà peut-être ce qu'on pouvait dire, en tout cas ce que j'avais envie de vous dire. C'est pas ce qu'on pouvait dire, on peut dire mille autres choses, mais ce que j'avais envie de vous dire sur cette contradiction entre l'amour et la mort aujourd'hui. Dimanche prochain, je vous parlerai des rapports entre vie publique et vie privée, c'est-à-dire des conséquences collectives, publiques et même politiques de cette révolution de l'amour, de cette histoire de la vie privée, et bien justement dans le domaine de l'espace public.